voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Dans le panel des nouveaux paysans, Gabriel Willem détonne. À la fois musicien et maraîcher, il pratique ses deux activités dans ses jardins en chantant, au service du vivant. Rencontre avec ce personnage inspirant.
Succinctement, en fait, donc moi je m'appelle Gabriel Willem, je suis né à l'endroit à 2 minutes d'où on se parle en ce moment, Erlisheim. Et puis à 18 ans, je suis monté, 17 ans et demi, je suis monté à Paris après un bac scientifique. J'ai fait un bac scientifique sur les conseils de mes profs et de mon père, qui me disaient, bon, ben voilà, à 17 ans et demi, je cherchais un peu une alternative et je suis allé faire du théâtre à Paris. Je cherchais plein d'autres choses, hein, mais voilà. Et je me suis dit, ok, je vais faire le bac, on sait jamais ce qui va se passer derrière. Donc je suis monté à Paris, j'ai vécu ma jeunesse parisienne, on va dire. J'ai fait les cours Simon, c'est un cours de théâtre. Puis j'ai enchaîné des pièces de théâtre, un peu de cinéma, un peu de télé. Et 4 ans après, en fait, je me suis retrouvé au Burkina Faso pendant 3 mois pour un festival panafricain. Donc c'était un festival de théâtre, les récréatrales, ça s'appelait à Ouagadougou. Et puis on s'est retrouvé avec plein de troupes de théâtre africaines, d'Afrique noire surtout. Et nous, on était la seule troupe d'Europe. Et c'était une troupe qui était portée par une metteur en scène de Guyane française. Donc, total dépaysement pour moi, parce que j'étais jamais allé plus loin que l'Allemagne. Et surtout, énorme claque humaine et artistique. Et depuis ce moment, je peux te dire que les deux sont en totale connexion. Ça va peut-être qu'avant, je séparais le côté humain du côté artistique. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, humainement, déjà, ça m'a fait un peu redescendre sur Terre. C'est-à-dire qu'on peut y aller franco et dire que j'étais un petit peu un jeune con qui avait eu 2-3 passages médiatiques et qui donc se prenait un peu pour ce qu'il n'était pas. Et voilà, ça m'a remis bien les pieds sur Terre. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de 50 millions de lumière, du velours rouge, des dorures. Et je, en tant que comédien sur scène, pour faire du bel ouvrage, on va dire. Voilà, donc ça, c'était un grand claque. Je suis rentré à Paris et je me suis dit, je ne vais peut-être pas continuer le théâtre tant que je ne ressentirai pas ce que j'ai senti là-bas. C'est-à-dire que sur tous les projets que j'avais faits, je n'avais jamais ressenti un tel feu intérieur, en fait, dans le ventre. Je me suis dit, c'est pas possible, enfin je peux pas continuer, alors que là, en 3 mois, j'ai vécu plus que ce que j'ai vécu en 4 ans de début de carrière, on va dire.
Et donc à ce moment-là, t'es en mode culture, t'étais pas encore dans les plantations, t'étais vraiment une vie culturelle entre Paris, le théâtre, la musique, ton groupe, ta formation, les concerts. Et comment est née cette idée ou cette envie de mettre les mains dans la terre et de transformer le côté culturel en culture ?
Tout simplement, effectivement, il n'y avait pas de côté d'agriculture, mais juste pour remettre dans le contexte, je suis issu d'une famille, on va dire, moyenne française, qui avait la chance d'avoir un petit jardin, et j'ai vu un petit jardin quand j'étais petit, mais rien à voir avec l'agriculture, quoi. Ben, à ce moment-là, avec ma petite fille, je me suis dit, j'ai commencé un peu à lire des choses et à me rendre compte qu'il fallait peut-être se nourrir de façon différente, et c'était plutôt, j'ai mis les mains dans la terre à ce moment-là pour avoir une visée plutôt d'autosuffisance, on va dire, pour ma famille, pour bien les nourrir. Donc j'ai trouvé un petit terrain pas loin d'ici, et j'ai commencé un peu à m'amuser, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai construit une serre géodésique, on a planté des fruitiers, etc., etc. Mais toujours avec aucune idée autre que de se dire, je reprends un peu ce que j'ai peut-être oublié ou que je sais pas, mais voilà, porté par un mouvement. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que à aucun moment je me suis posé à table et je me suis dit, je fais le point sur ma vie, je fais ça, je fais pas ça. Depuis que je suis rentré de Paris, depuis que j'ai eu ce déclic au Burkina Faso, en fait, j'ai toujours suivi, le fil qui me tirait, quoi. Ça a jamais été un concept, ça a jamais été un projet. Par contre, j'ai pris tout ce qui me venait. Et je le faisais mien, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et après, donc je commence un peu à m'intéresser, à rentrer dans les cercles des gens dits écolo-bio autour de Colmar. Et puis voilà, et à force de voir quelques personnes et d'entendre toujours le même discours de « ça va mal, la planète va mal, en Alsace, l'agriculture c'est que du maïs, le sol il est défoncé, la nappe phréatique elle est polluée, etc. » Ce qui est une réalité. Mais j'avais toujours ces mêmes personnes qui disaient ça, et je voyais en face, aucun acte en fait. Aucun acte concret. Il y avait des actes, parce que penser, c'est un acte. Il faut mettre des choses en réflexion. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action. Et donc, je me suis dit, bon, ok. Parallèlement à ça, il y avait le journal du village où il y a marqué location terre communale agricole. Et voilà, encore une fois, je connais pas le milieu agricole. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe dans le milieu agricole. Mais je me suis dit, bon, bah, ok, je vais postuler. Et puis, c'est toujours ça que le maïs n'aura pas, et j'aurais fait ma part, ma petite part, quoi. Voilà, et donc je suis allé un peu comme un bleu-bit, comme un naïf. Je vais aller, et j'avais pas conscience qu'en fait l'agriculture c'était régi par des règles, il y avait des lois, il fallait être affilié à un organisme qui allait aimer ça, etc., etc. Mais au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Et deux, je vais prendre ce terrain, le louer pour que ça ne sera pas du maïs qui soit dessus. C'est devenu, ben, pourquoi pas faire en plus grand ce que je faisais déjà dans mon jardin, et des lectures, et des rencontres. Et à ce moment-là, je lisais un livre d'un mec qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui est un maraîcher québécois, et qui a remis au goût du jour quelque chose qui existe depuis assez longtemps, mais c'est ce qu'on appelle les micro-fermes. Donc, avoir une ferme sur une petite surface. Et j'ai lu ce mec, et je me suis rendu compte qu'il mettait vraiment en mots ce que je ressentais au fond de moi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là où j'avais démarré le projet, forcément, il y a plein de personnes qui arrivent, ils connaissent un peu mon passif et tout ça, et ils disent qu'est-ce qu'il va faire sur une terre, etc. Et je rencontre à ce moment-là beaucoup de personnes que je qualifierais un peu de trop rêveuses. Ah oui, mais il faut pas de plastique pour faire du maraîchage, il faut ci, il faut ça, et puis permaculture, et puis etc. Et en même temps, il y a des concepts et des notions qui m'intéressent, et en même temps, je dis, bah ouais, ok, mais ça reste beaucoup dans la tête tout ça, et qu'est-ce qui est fait concrètement? Et puis aussi, comment tu vis? Parce que on est dans un moment où on est encore dans le capitalisme, même si il serait souhaitable qu'on transforme un peu ça, on en est encore, donc l'argent est toujours le moteur de la guerre. Et ce mec-là, dans son livre, expliquait, voilà, moi je veux participer à un changement de mentalité, à une révolution écologique, et en même temps, ben, je fais un métier et je vois pas pourquoi il serait pas payé, pourquoi je pourrais pas nourrir ma famille avec ce métier. Et à côté de ça, moi je voyais beaucoup de gens qui galéraient énormément dans ce métier-là, qui faisaient des 80 heures par semaine, mais qui n'étaient pas rémunérés. Des chiffres comme la moitié des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 euros par mois, des taux de suicide plus élevés que dans les autres professions. Et là, ça m'a parlé, j'ai lu ce mec et tout, et je me suis dit, bah ouais, carrément, si je me lance là-dedans, je le ferai pas pour moi, je le ferai aussi pour montrer que c'est possible de faire ce métier-là et qu'il est possible d'être rémunéré et de pouvoir nourrir les siens après. Et puis après, ça s'enchaîne, en fait. Ça s'enchaîne, forcément, je suis parti de 50 hectares jusqu'à 1 hectare. Aujourd'hui, il y a 1 hectare. Je pense que ce qui est important, c'est que dès le début, j'ai suivi son conseil à ce Jean-Martin Fortier qui disait, ok, mettez-vous une limite. Parce que si tu ne te mets pas de limite, tu peux vite après être embrigadé. Et je le vois sur d'autres fermes qui ont de plus en plus d'espace. Voilà, on a un petit hectare. Je travaille avec ma femme qui s'appelle Léa Palagès, qui est costumière de spectacle aussi. Et mon père à la maison qui nous aide à faire les semis. Et puis des stagiaires qui passent, plein de personnes qui passent. Et puis finalement, ce qu'on fait ici, c'est pas de l'agriculture. C'est pas que la culture non plus, parce qu'on va peut-être en parler, mais on mixe avec mon ancien actuel et futur métier, qui est toujours celui d'être artiste. Mais on se pose des questions sur la façon de vivre, et en fait on fait de la politique au sens premier du terme.
Avant de parler de ton engagement et puis de la partie artistique, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît dans ton histoire, c'est que t'es parti de rien, tu n'avais aucune connaissance du monde paysan, et donc tu prouves que c'est possible de s'installer et de développer un projet en maraîchage sans avoir fait aucune étude dans ce domaine-là.
Alors, je vais commencer par ce qui m'aide beaucoup. Clairement, pour pas vendre du rêve non plus, je suis installé aujourd'hui dans le village dans lequel je suis né. Alors, ça m'apporte aussi des soucis, mais il y a du positif, c'est-à-dire que je suis quand même l'enfant du village pour les gens, ils me connaissent, etc. Je suis pas l'étranger total, même si je suis celui qui est parti à Paris et qui est revenu, donc un peu attraction-répulsion. Mais effectivement, j'ai pas fait d'études spécialisées dans l'agriculture. Je n'ai même pas fait d'études. Enfin, après le bac scientifique, j'ai fait donc les cours Simon, mais ça s'est arrêté là. J'ai pas de famille paysanne autour de moi. Mais moi, ce que je pense aujourd'hui, en fait, outre le fait qu'on prouve ici que c'est possible de partir de zéro et de refaire les choses correctement, je crois qu'en fait, on a tous des racines paysannes. Plus ou moins éloigné, mais finalement c'est pas une question de faire des études pour apprendre des choses, c'est une question de refaire les choses simplement, j'ai envie de dire, et se reconnecter à ce qu'on a toujours été. Et je suis persuadé, comme des fois des personnes viennent me voir, donc je précise que je suis pianiste et chanteur, ils me disent mais je sais pas chanter et je n'arriverai jamais à chanter, et je leur dis mais c'est pas vrai. Enfin, c'est le travail, il va pas se faire forcément sur le chant lui-même, il va se faire sur toi. Qu'est-ce qui t'empêche de chanter? Parce que on peut être tous égaux. Donc oui, c'est possible de partir de zéro.
Mais le côté artistique, ok, mais là c'est une compétence qui est nécessaire pour pouvoir travailler le sol. Et il y a quand même quelque chose de très normé en France. Il y a aussi cette notion de légitimité. Souvent on ne se sent pas légitime à pouvoir faire quelque chose parce qu'on n'a pas suivi le cursus ou le processus qui nous permette d'avoir cette légitimité.
Moi je ne l'ai jamais caché, je suis quelqu'un de très égocentrique. Ça m'a amené à faire du théâtre, du cinéma, aujourd'hui de la musique. Et je pense que cet ego, en le travaillant, parce que je t'en ai parlé avant, il pouvait être néfaste. C'est-à-dire quand j'étais au tout début de ma carrière de comédien, je suis le plus beau, et je dois avoir les plus beaux costumes, etc., etc. Mais après, cet ego étant travaillé, en fait, il me permet d'être ancré dans la terre et de dire, bah ouais, je suis capable. Et puis, par rapport à cette normalisation des pratiques culturelles agricoles, je crois que c'est vraiment la chance que j'ai et ce qui fait la spécificité de ce projet et qui peut être intéressant même pour les gens qui sont dans ces normes-là, c'est que du coup, je pars pas avec une façon de faire prédéfinie. Je pars avec des lectures, je pars avec des ressentis, mais toujours avec cette adaptabilité qui fait que je teste des choses et en même temps je garde ce qui est bon et en même temps j'écoute aussi les anciens, je parle de plus en plus avec les gens autour, les agriculteurs, et j'écoute leur manière de faire. Ici on fait ce qu'on appelle ça un retour en avant. Clairement je suis persuadé toujours dans cet équilibre que il faut prendre ce qui était bon avant, il faut apporter aussi de la nouveauté et de la créativité. Donc là c'est intéressant parce que je te parlais d'ego et même mon côté créatif artiste permet d'avoir quelque chose de nouveau ou d'anciennement nouveau dans l'agriculture. Je prends un exemple, dans le maraîchage en fait, dès que tu as une culture qui monte en fleur, le maraîcher ou la maraîchère la coupe et replante directement derrière. Parce qu'il faut absolument avoir toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes et tout ça. Et moi, au début, forcément, n'étant pas un dieu du maraîchage, les légumes partaient assez vite en fleurs. Mauvaise plantation, mauvais moment, peut-être trop chaud, pas assez d'arrosage, etc. Et plutôt que couper comme tout le monde faisait, je me suis mis à commencer à manger les fleurs des légumes. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, la roquette, déjà, la fleur est magnifique. Ça va donner à nourrir aux insectes pollinisateurs. Et je goûte cette fleur et je me dis, mais en fait, c'est la quintessence du goût de la roquette. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va couper cette fleur en disant, c'est pas bon, faut pas le manger. Tu parlais de normes, c'est clairement une norme dans la plupart du maraîchage, aussi biologique, hein, c'est pas une question de maraîchage bio ou conventionnel. On va avoir ce qu'on appelle des normalisations de légumes. Telle taille, telle chose. Un légume, par exemple, le navet, et on va prendre de la racine. Mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire tu produis un navet qui a des énormes fans, il y a presque plus de fans que de racines, et on va couper les fans alors que c'est délicieux. Donc tout ça, voilà, c'est des réflexions, et au bout d'un moment, ce qui est intéressant, c'est que je pense que notre projet au Jardin Enchantant, et moi, mon parcours de vie, est complètement ancré dans ce qui est en train de se passer. Donc je peux me nourrir autant des réflexions autour de moi que ça peut être dans l'inverse, mais je ne suis pas seul. Je parle souvent des gens qui ont lancé le label agriculture biologique dans les années 70, et là, je me dis, je crois que si j'avais été à leur place, j'aurais pas eu le courage. Parce que c'était pas la même chose. Eux, ils étaient vraiment seuls contre tout le monde et ils passaient pour des huberlus. Aujourd'hui, moi, on me dit, je suis farfelu, ok, mais je veux dire, les gens viennent. Ok, c'est possible. C'est le moment, quoi.
Est-ce que tu étais accompagné dans ta transition? Est-ce que tu as eu un organisme, une structure qui est là pour pouvoir donner des conseils pour s'installer en maraîchage?
Non, et je l'ai pas forcément cherché. Les organismes qui sont entre guillemets spécialisés là-dedans, pour moi, de ce que j'en connais, de ce que je vois et tout, ça reste des organismes et donc ça reste des pensées bureaucratiques. Et il y a clairement un problème, c'est que soit il y a des gens dans les bureaux, soit il y a des gens dans l'action, mais il n'y a jamais une interconnexion entre les deux, il n'y a jamais quelqu'un qui fait les deux, il n'y a jamais, voilà, j'ai pas été accompagné, j'en ai pas ressenti le besoin.
J'entends souvent dire aux jeunes qui veulent se lancer que le problème ou la problématique numéro un, c'est l'accès au foncier. Donc toi, tu n'as pas eu ce problème?
Si, c'était un problème. Ça l'est toujours parce que bon, je suis en location. Donc c'est la commune qui me permet de faire tout ça. Entre parenthèses, aujourd'hui, ce problème d'accès au foncier, pour moi, il ne pourra que se résoudre par des locations ou des mises à disposition des communes. Aujourd'hui, un propriétaire foncier ne va pas penser, la plupart, on va dire, il y a peut-être des gens philanthropes, mais ils ne vont pas penser, tiens, je vais permettre à un jeune de m'installer. La plupart, encore une fois, parce que j'ai des exemples qui me viennent en tête. Mais ils vont penser, tiens, tel terrain, il est agricole, mais peut-être un jour, il va devenir constructible, donc c'est de l'argent, donc je ne peux pas le mettre à disposition d'un jeune. Parce que à partir du moment où tu loues sous bail agricole, en fait, tu ne peux pas récupérer ton terrain assez facilement. Et les communes ont encore une réserve foncière de terrain. Et les communes aussi sont confrontées à quelque chose qui n'est pas récent, mais qui continue, c'est l'exode urbain. Il y a certaines communes qui se retrouvent vides, vides de population, vides de sens. Et ça serait magnifique d'imaginer dans chaque commune une petite ferme comme ça qui puisse se réinstaller. Donc, pour répondre à ta question, j'ai eu quand même des soucis parce qu'à partir du moment où j'ai posé ma candidature, j'ai dû quand même me battre et expliquer mon projet pour pas que ça tombe, que ces terres communales tombent à l'agrandissement. Voilà, pour faire simple, certains agriculteurs en pick-up qui arrivent comme dans Dallas à la mairie en gueulant « c'est pas pour Willem, ça c'est un terrain, lui il reconnaît rien au monde de l'agriculture, etc. » Ouais, j'ai appris pas mal de choses.
Ouais, parce que tu as des visions qui s'opposent.
Ben, maintenant je me rends compte que finalement non. Mais il y a beaucoup de préjugés dans les deux sens. Maintenant, quand je suis arrivé ici, en fait, j'ai eu ouï dire de certaines choses comme on me voyait, et je voyais aussi les agriculteurs ou les viticulteurs qui passaient devant le terrain, qui ne regardaient pas du tout. Moi, je me suis dit, à le début, ok, je vais faire amende honorable, je leur fais un sourire, je les salue. Et c'est qu'au bout d'un moment, au bout forcément d'une médiatisation, et que surtout, ils voyaient que le terrain était entretenu, que c'était pas ridicule ce qu'on faisait, qu'on avait même des résultats, que sans produits phytosanitaires, sans pesticides, on peut arriver à faire de la culture. Et bien, au bout d'un moment, ils se sont arrêtés, ils ont ralenti, ils ont discuté et tout ça. Et quand on discute, j'ai une voisine qui fait des céréales, et à force de discussion, je lui ai dit, écoute, arrête de faire du maïs, mais autre chose et tout ça. Et on commence à discuter sur la bio, tout ça. Et elle me fait, mais tu sais, Gabriel, moi, je suis d'accord avec toi, dans le fond, dans mon potager, je ne mets aucun produit. Et en fait, j'étais face à une personne, ça a l'air d'être assez répandu, qui est tiraillée entre le fait qu'elle est entourée... C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on appelle un exploitant agricole ou un agriculteur, je ne parle pas d'un paysan, par exemple, qui fait des céréales, il fait aucun choix. Il a un technicien de la chambre d'agriculture qui lui dit tu sèmes ici à tel endroit, l'Europe qui lui dit tu fais ça, 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 le conseiller de je sais pas quoi qui lui dit tu fais ci parce que moi j'ai besoin de tant et tant de maïs, ça correspond à un cours mondial, là on a besoin de ça et tout ça. Et l'agriculteur il est comme ça, il se dit putain mais merde, attends, si je sauve pas ma culture, déjà que je suis en galère financièrement, etc., comment je vais faire? Mais dans son jardin il met aucun produit phytosanitaire. Donc il a bien conscience que c'est de la merde ce qu'il met. Ça doit être horrible, moi j'aimerais pas être à leur place. Faire quelque chose, se sentir obligé de faire quelque chose qu'on sait qui est mauvais, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Et cette notion du sens, aujourd'hui de plus en plus de citoyens essaient vraiment de remettre le sens au cœur de nos vies. C'est un petit peu ton histoire et ton parcours. Quand je t'ai vu sur scène il n'y a pas longtemps, t'as ce t-shirt « Je suis fier d'être paysan ». Je vais t'emmener là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un paysan? Comment tu le définis? Et pourquoi es-tu fier d'être un paysan aujourd'hui?
Donc j'ai sorti un album, là, mon premier album solo, qui s'appelle « Paysan et fier de l'être ». C'est un lien. Et les paroles du refrain, c'est « Paysan et fier de l'être, car j'œuvre dans mon pays ». Et oui, pour moi, un paysan, c'est clairement ça. Bon, je précise que mon père était prof de philo et ma mère prof de français, donc je suis assez baigné dans la recherche des sens des mots. Et voilà, un paysan, étymologiquement et traditionnellement, c'est quelqu'un qui change le pays autour de lui. Si tu prends par exemple dans les vallées, il a coupé des forêts pour mettre des choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un agriculteur, on est passé du paysan à un agriculteur ou à un exploitant agricole, quelqu'un qui exploite la terre. Le paysan, à la base, c'est celui qui nourrit les autres. Et ce n'est pas forcément que quelqu'un qui nourrit de manière physique des légumes, de la viande, quelque chose d'autre. Donc, à partir de cette réflexion-là, je me suis rendu compte que moi, en tant que créateur, artiste et maintenant maraîcher, j'étais pleinement paysan, puisque dans mon pays, donc dans mon village et même au-delà, j'amenais les autres à avoir des réflexions. J'amenais les autres à se rencontrer, à manger différemment et tout ça. Et donc, moi, en tant que paysan... qui œuvre dans mon pays, je suis fier dans le sens où je sers à quelque chose. C'est pas forcément, je peux pas dire tout ce que je fais c'est génial et puis voilà ça emmène que du positif. C'est même pas la question. La question c'est, je me lève le matin, est-ce que mes actions vont avoir, il va y avoir une réaction en fonction de ça, ou est-ce que ce que je vais faire, à Paris quand je vivais là-bas, que j'aille acheter un coca ou que j'aille je sais pas, au cinéma ou ailleurs, enfin, on s'en faisait, c'est, il y avait rien, je ne servais à rien. Peut-être dans mes pièces de théâtre, il y a un spectateur qui était touché, voilà, moi, je sais pas. Mais là, je me lève le matin, je sais que selon ce que je vais faire, eh ben, il va s'engendrer quelque chose. Et ça, c'est hyper gratifiant, comme tu parles. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on parle beaucoup de sens, parce que même si on a de l'argent, même si on a des très hauts métiers, même si on a et on a et on a et on a, si tu te lèves le matin avec tout ça, mais que tu sais pas pourquoi tu te lèves, tu sais pas à quoi tu vas servir, ben, l'être humain, il est pas fait pour ça, quoi. En dépression totalement.
Quel est le sens que tu as envie de donner à ta vie et qu'est-ce que c'est que pour toi cette notion du sens?
Bah, tout simplement, moi je. Il y avait une question sur un reportage d'une journaliste télé qui était venue et qui disait. C'est une question qu'on me posait beaucoup au début, ça me faisait marrer parce que voilà, j'ai l'image du musicien dans son jardin, donc forcément la question c'était mais est-ce que la musique fait pousser mieux les légumes et tout? Et en fait, la réponse, c'était pas forcément que la musique en tant que telle faisait pousser mieux les légumes, mais si moi, en tant qu'être humain, au milieu du jardin, que je façonne, parce que clairement, on a des techniques culturelles qui font qu'on laisse aussi la nature œuvrer, mais c'est pas la nature toute seule. Nous, on la façonne, on l'aide, on est en interaction avec elle. Si moi, je me sens bien, si moi, je suis heureux, autour, mes légumes seront heureux. Les légumes seront heureux. Donc mon but aujourd'hui, le sens, c'est ça, c'est me lever tous les matins en me disant, ok, comment je peux être pas le plus heureux possible, parce que il faut pour moi aussi sortir d'un diktat du bonheur, quoi. Mais en tout cas, essayer de travailler le plus possible pour avoir le moins d'énergie négative qui tire vers quelque chose de pas bon, quoi. Donc moi, la seule chose que je peux dire pour décrire ce qu'il y a ici, c'est qu'en fait, ben, le métier d'artiste se mêle avec le métier de maraîcher. Donc c'est de la culture et de l'agriculture. En gros, pour faire simple, chaque année on a un festival dans les jardins. Et puis on fait un restaurant éphémère en saison tous les samedis soirs où on accueille régulièrement des spectacles. Donc en fait, tu es au milieu de la parcelle, tu manges ce qui a poussé autour de toi et puis tu vois des artistes au milieu de la parcelle. Et puis pour moi, maintenant que ça fait quand même 15 ans que je suis dans le métier de la culture en tant que créateur, artiste, je crois que c'est là où l'une des plus belles places de la culture, c'est là, quoi.
Tu organises aussi des visites guidées de ton jardin. Comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ce genre de démarche qu'est la tienne?
Alors, pour la visite guidée, c'est venu du fait que, comme on a une proposition un peu différente, c'est-à-dire qu'on ne fait que des variétés non hybrides de légumes, comme je t'expliquais avant, on va pouvoir faire des fleurs comestibles, des choses comme ça. Ouais, en Alsace, on a une culture du maraîchage biologique, mais quand même assez traditionnelle, quoi. Donc il faut tel type de légumes, bien rond, bien rouge, etc. À un moment donné, je me suis rendu compte que on passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie auprès des clients pour leur faire goûter des choses, j'allais dire des choses nouvelles, mais c'est pas forcément nouveau, c'est je te parlais avant de fans de navets ou autre chose comme ça. Et on prend énormément d'énergie. Et au bout d'un moment, il y avait un exemple, c'était la carotte. La carotte, aujourd'hui, en bio, elle est vendue à peu près 2,20€ le kilo. Moi qui fais pousser de la carotte, maintenant, je peux pas entendre que ce soit 2,20€. Le vrai prix, si on paye le travail correctement, c'est-à-dire au SMIC, le valeur minimum, le prix de la carotte devrait être normalement de 10€ le kilo. Par rapport au travail fourni quand on le fait à la main, sur une petite surface et tout. Et donc, j'expliquais ça aux gens et je leur disais, mais moi, je veux pas demander 10€ le kilo, c'est pas la question. Mais si on était dans un monde normal, ça devrait coûter 10€ le kilo. Et il me disait, ah ouais, je comprends, parce que vous m'expliquez, vous travaillez 15-3 heures par semaine, etc. Mais c'est vrai, c'est dur, etc. Mais je voyais dans leurs yeux qu'une fois qu'ils partaient, c'était fini. Ils avaient compris, mais c'était pas imprégné. À partir du moment où je me suis dit, je vais les faire visiter, je vais leur montrer ma façon de faire, je vais leur faire aussi un essai de ce que c'est comme travail. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, ils digéraient l'information, ils la vivaient. Et là, ils disaient, waouh, ok, donc c'est ça, en fait. Derrière ces belles images, derrière cette camionnette jaune, derrière ce personnage de musicien maraîcher, de costumière maraîchère, en fait, la réalité, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, mais merde, en fait, on sait rien des autres. Dans ce sens-là, même dans l'autre. On n'a aucune conscience de la réalité de l'autre. Donc là, les visites guidées, elles ont vraiment aussi vocation à dire, voilà, ça, c'est ma réalité. Après, vous adhérez pas, ou alors pour X raisons ça vous parle pas, très bien, mais au moins vous avez vu la réalité, vous pouvez acheter aussi nos légumes en conscience. Et oui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour comprendre ça, qui viennent avec leurs enfants, et maintenant il y a aussi un public de personnes, on va dire, agricoles ou jardiniers qui viennent pour comprendre un peu plus ce qu'on fait ici, quoi.
Tu abordes la notion du prix juste, j'aimerais bien que tu me la développes, cette notion du prix juste. Donc tu parlais de les carottes.
Bah, je pars du constat simple, en économie, en salariat, on parle, comme dit, de SMIC. salaire minimum interprofessionnel, je ne sais jamais ce que c'est le C, mais bref, c'est 9,81 € ou 87 net de l'heure. On peut dire qu'aujourd'hui, si par exemple moi au jardin, je voulais employer quelqu'un pour une heure, avec les taxes et tout, ça me coûterait 20 €. Donc j'emploie quelqu'un pour désherber les carottes, quelque chose comme ça. C'est le SMIC, c'est le minimum, hein. On parle de minimum. Je suis dans l'impossibilité de sortir 20 € puisque la personne, ce qu'elle me fournira comme travail sur une heure, j'arriverai jamais à le valoriser pour 20 €. Et encore là-dedans, je compte pas tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'achat de semences, etc. Le prix juste pour moi, ça serait que les personnes qui travaillent sur une ferme, qui tiennent la ferme ou qui emploient d'autres personnes, puissent dire j'ai fait une heure de travail, je suis payé une heure. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, une ferme comme la mienne, et nous aussi, si on calcule horairement, on pourrait se payer 2 € de l'heure. Donc je te parle des carottes à 10 €. Pour moi, le prix juste, ça serait de dire voilà, le prix il est de 10 €. Mais on va pas demander au consommateur de payer 10 €. On va avoir l'intervention des pouvoirs publics, des subventions, qui vont comprendre qu'en fait, acheter, produire une carotte comme ça, ça aura triple, quadruple, quintuple effet. C'est-à-dire que ce n'est pas juste acheter une bonne carotte. Ça va permettre d'entretenir une agriculture qui permet à la vie du sol de rester vivante, d'avoir encore la biodiversité. En même temps, la personne qui va manger ça, elle va avoir beaucoup moins de besoin de médicaments qui a un coût pour la société. Et donc, en fait, le prix juste, c'est tout le monde est gagnant. La société est gagnante, le consommateur est gagnant, et le producteur aussi, il est gagnant, parce qu'il peut vivre, on dit toujours décemment. C'est quoi décemment? La société a dit, vivre décemment, c'est avoir un SMIC par mois. Ben moi, je trouve que c'est pas demander trop pour un métier aussi dur que le maraîchage de pouvoir avoir un SMIC par mois.
Tu parles de subventions. Dans notre système actuel, sont subventionnés les exploitants agricoles, mais pas du tout les petits paysans en agriculture biologique.
Les subventions aujourd'hui, la plupart agricoles, ça s'appelle la PAC, c'est la politique agricole commune. C'est sorti en Europe après la Seconde Guerre mondiale pour favoriser de faire de la quantité, pouvoir nourrir, parce qu'il y avait des famines. C'était compréhensible à cette époque-là, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore subventionné à coût de taille d'exploitation. Plus tu as de terrain, plus tu as d'argent. Mais nous, on montre que justement, face à un problème de foncier et aussi par rapport à un type de culture, nous, on a besoin que d'un hectare pour produire assez. Ben voilà, donc on n'a pas ou peu de subventions à celle-là. Il est en train de se réfléchir et d'être un peu poussé au cul comme ça de la PAC et des grands mastodontes, mais c'est très difficile parce que là, on rentre dans un endroit où, par exemple, la FNSEA, où des gens font du lobbying avec beaucoup plus de poids que des petits paysans comme nous, est en train de se réfléchir, de demander à ce que ne soit pas subventionnée la taille de l'exploitation, mais la qualité de l'exploitation. Aujourd'hui, moi, je loue la terre à la commune. Je leur ai dit très récemment, je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte que si un jour je pars d'ici ou si vous voulez me mettre dehors, quelque chose comme ça, vous allez récupérer une terre magnifique. Chaque année, je fais une analyse de sol. On est parti du taux de matière organique et de vie dans le sol de quasiment rien à aujourd'hui un très très beau chiffre. Et tout ça, en fait, bah moi, sur mon petit îlot, là, si tu prends un drone et que tu regardes, ça fait un peu Astérix au milieu des Gaulois. Bah, pour revenir avant la question de sens, le matin, je me lève en me disant « Ok, quand je vais mourir, ben, il y a des gens derrière moi qui pourront continuer à cultiver des légumes sur la parcelle où j'ai travaillé. »
Au début de cette émission, tu me parlais de rêveur. C'est vrai qu'il y a cette utopie qui est nourrie par beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ce retour à la terre, ce retour au monde paysan, de plus en plus de gens veulent se lancer, quitter les villes pour se réinstaller dans une polyculture, maraîchage, élevage, agroforesterie. Mais la réalité est souvent bien différente. Est-ce que tu les vois, ces rêveurs, et est-ce que tu pourrais leur donner un message?
Quand j'ai commencé, je recevais que des profils comme ça, en fait. Et je me faisais complètement bouffer par ces personnes-là. Et c'était pas négatif. C'est-à-dire, je leur dis, c'est pas négatif que tu sois rêveur et que tu sois plutôt à observer autour de toi plutôt qu'être dans l'action. En tout cas, moi, dans ma ferme et dans une ferme de maraîchage, enfin, tu peux pas être rêveur. Même si on fait les choses de la manière dont on les a décrites auparavant, il faut quand même sortir du légume, quoi. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte de cette recherche, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est-à-dire, c'est pas basculer vers un modèle totalement justement productiviste où tu réfléchis à rien, tu prends pas le temps d'observer et puis tu cultives. Et à l'inverse, c'est pas non plus un modèle tel qu'il est vendu un peu dans des magnifiques vidéos avec des belles images sur Internet. On dit souvent le mot de permaculture, mais ça, on pourrait en discuter des heures parce que il faudrait mettre un sens derrière ce mot-là, en tout cas. Mais oui, je vois beaucoup de personnes qui arrivent en disant « Ah, super, je vais mettre de la paille et je vais jeter des légumes et puis ça va pousser tout seul et puis la vie est belle, je vais retrouver du sens, etc. » C'est un métier de chien, même si tu le fais de manière, je pense, sensée comme on le fait. faut pas oublier que c'est un métier de chien où tu te casses le dos, tu as quatre pattes pour désherber et tout ça. Donc nous, notre recherche, elle est de trouver l'équilibre entre ciel et terre. Donc le message aux rêveurs, mais je veux pas non plus mettre dans une catégorie parce que ça serait dommage, mais il y a un message qui est clair. Je te parlais avant du fait qu'aujourd'hui, c'est possible de créer des choses comme ça. Faites-le maintenant. Si vous avez des rêves comme ça, faites-le. Mais essayez de les structurer aussi. Trouvez le juste équilibre entre cette intention et cette envie d'y aller et cette petite voix dans la tête qui va toujours dire « Oh là, mais attends, mais si tu fais ça, il va se passer ça, et si tu fais ça... » Il faut l'écouter un tout petit peu, cette petite voix, pour avoir des barrières, mais il ne faut pas se faire bouffer totalement. Donc, c'est une recherche d'équilibre. Mais soyez humble, en fait. Humble et ambitieux.
Gabriel, merci à toi.
Merci Alexandre.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.